Bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien. On va prier, on va remettre ce temps au Seigneur avant de partager la parole. Seigneur, nous te bénissons pour ce culte, nous te bénissons pour ce moment dans ta présence. Seigneur, ce matin, nous te prions encore de venir parler à nos cœurs, de venir déposer dans nos cœurs ta parole, de venir déposer, Seigneur, cette bonne nourriture qui nourrit notre âme, Seigneur. Merci, Père, pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié ce matin. Amen. Voilà le titre, reste avec celui qui t'aime. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à quel point que tout ce qu'on peut penser, tout ce que le monde pense, peut être complètement à côté de la plaque parfois. Alors je vous donne quelques exemples. Voilà, par exemple, l'air que l'on respire, il y a beaucoup de monde qui va vous dire, bah, l'air, oui, il est constitué d'oxygène. La majeure partie, c'est de l'oxygène. Et en fait, non. Dans l'air qu'on respire en ce moment, il y a simplement 20% d'oxygène. Et puis, certains imaginent aussi que le soleil, bah, voilà, c'est de la roche en fusion, c'est une boule de feu. En fait, non. C'est constitué d'hélium. C'est constitué d'hydrogène, c'est du plasma, donc c'est en majeure partie du gaz. Et puis, un dernier exemple, les nuages qu'on voit dans le ciel, souvent dans cette région. Les nuages, bah, ce n'est pas de la vapeur d'eau. Des fois, certains pensent que c'est de la vapeur d'eau. Non, ce sont des toutes petites, des milliards de gouttelettes d'eau et de cristaux qui sont assemblés ensemble. La pluie est déjà dedans, l'eau est déjà dedans, en fait. Ce n'est pas de la vapeur d'eau. Puisque la vapeur d'eau ne se voit pas, elle est invisible. Donc en réalité, nos idées sont souvent basées sur ce que l'on voit, ce que l'on imagine, ce qui nous paraît logique, mais pas forcément sur la vérité. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Là, je vous ai mis le domaine de la science, mais par exemple, si vous demandez à une personne qui n'a jamais lu la Bible, vous allez lui demander qu'est-ce que contient la Bible ? Ben, en majeure partie, les gens vont vous répondre « Oh ben, ce sont des règles morales, avec des interdits, des commandements, des personnages qui sont tous parfaits, qu'il faut imiter. » Alors qu'en fait, la Bible, elle est constituée de façon très minoritaire de textes de loi. Il y a une partie, il y a des lois, il y a des commandements, mais ce n'est pas la majeure partie. Dans la Bible, il y a des récits. On nous raconte l'histoire de famille, l'histoire d'un peuple, on nous raconte des guerres. Bon, il y a des poésies, il y a des lettres, il y a des personnes surtout qui sont imparfaites et tourmentées, sauf une, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est tout ça la Bible. Et je pense que toute personne qui commence à vous, peut-être quand vous avez commencé à lire la Bible, vous avez été surpris par ce que vous y avez trouvé. Et j'ai entendu dernièrement un témoignage sur Internet d'un monsieur français qui est devenu chrétien, et il explique un peu comment il a rencontré Dieu. À 20 ans, il était dans une culture punk, c'était dans les années 90. Il vivait dans la colère, il était vraiment dans ce mouvement punk qui dit que voilà, tout est fini, tout est noir, il n'y a pas d'espoir. Et puis, durant son enfance, il avait été abusé sexuellement, ce qui lui a laissé des blessures. Et à l'époque de cette vie, ben, il vivait dans la débauche. Il allait en fac, mais il sortait, il buvait de l'alcool, il était dans toutes sortes de choses. Et pour lui, les chrétiens, c'était le monde des gens, des bisounours, des gens bien, du peace and love. Il voyait les chrétiens comme des cornichons dans un bocal, quoi, en fait, qui étaient comme ça tous ensemble et puis qui ne voyaient pas en fait ce qui se passait dans le monde. Et lui, il pensait avoir la vérité. Et puis un jour, il y a un professeur de philo, je crois, qui a dit à ses élèves, il était franc-maçon, pas chrétien, il n'allait pas dans les églises ni rien, mais il a dit à ses élèves, lisez le livre de l'Ecclésiaste. Alors c'est pas le premier livre qu'on conseillerait à quelqu'un qui veut découvrir Dieu, mais lui il a dit, lisez l'Ecclésiaste. Et ce jeune homme, bah, il l'a écouté. Donc il s'est acheté une Bible, il dit, c'est rien que des niaiseries, de toute façon dans ce livre... C'est mièvre et tout. Et il a commencé à lire l'Ecclésiaste. Et là, il a pris une claque. Deux claques, tac, tac. Il a, il a vu, je ne sais pas si vous avez tous lu l'Ecclésiaste, mais dans l'Ecclésiaste, il va découvrir un homme qui crie « Vanité des vanités, tout est vanité ». Il lit que le sage meurt comme l'idiot, il lit que l'injustice règne sous le soleil et que celui qui augmente son savoir ne fait qu'augmenter sa douleur. Il tombe sur cette phrase incroyable qui dit « J'ai haï la vie ». Et il réalise alors que ce texte qui a été écrit il y a 3000 ans va bien plus loin que le mouvement punk qu'il croyait avant-gardiste. Il croyait tout connaître. Et là, il découvre un texte d'une profondeur qui va jusque au fond de son cœur et qui est bien plus détaillé que tout ce qu'il avait pu lire avant. Et là, il comprend, la première chose qu'il comprend, c'est l'absurdité de la vie sans Dieu. Il comprend qu'il est vraiment à côté de la plaque et que la parole de Dieu ne lui demande pas de nier ses souffrances, sa colère, mais de les apporter à Dieu et de vivre avec lui. Voyez comment on peut avoir des idées préconçues sur quelque chose. Cet homme-là, il ne pensait pas découvrir cela dans la Bible, un si vieux livre. Et pourtant, la Bible parle à tous les cœurs aujourd'hui. Quel que soit ce que vous vivez dans votre cœur, Dieu a pris soin de l'expliquer dans sa parole. Il y a quelqu'un, il y a une personne que Dieu a formée il y a des milliers d'années avant, qui va parler à votre cœur. Parce que le cœur de l'homme ne change pas en fait. Le cœur de l'homme est toujours le même. Et la Bible parle à chaque homme, quel que soit son vécu, sa situation, ses opinions. Les choses que l'on garde au fond de notre cœur, mal-être, tourment, doute, Dieu a prévu dans sa parole qu'elles puissent être révélées et qu'il puisse vous donner la solution. Et il y a beaucoup de gens qui se lisent la parole de Dieu comme ça. Mais lisez-les d'une manière comme si elle s'adressait vraiment à vous. Dieu a un message profond et puissant pour votre cœur à vous. Et justement, ce matin, j'aimerais que l'on parle de quelque chose qui a traversé nos cœurs à tous, un jour ou l'autre. Je pense qu'on a tous eu ce combat. Et ce combat, il a été traversé par un homme qui nous le raconte dans un psaume. Cet homme, c'est Asaph. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas. Asaph, ça signifie « celui qui rassemble ». Un beau mot, hein, si vous cherchez un prénom pour un petit enfant. Asaph, celui qui rassemble. Et ce Asaph, c'était un lévite qui avait en charge la louange. Il était reconnu comme ministère prophétique. Et il a écrit 12 psaumes. Hein. Et donc, c'est un homme qui sert Dieu, qui marche avec Dieu, qui est dans le peuple de Dieu et qui est là pour servir. Mais on va trouver Asaph dans ce psaume avec un grand combat dans sa foi. Il a une pensée qui l'obsède. Comme je le disais, je pense qu'on a tous eu cette pensée un jour ou l'autre. Une pensée qui l'obsède, avec laquelle il lutte et qu'il ne peut pas chasser de son esprit. C'est un doute, ça le harcèle le jour, la nuit. Et on va voir le verset en question. Psaume 73, verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Ici, Asaph nous décrit sa situation. Il se sent comme au bord d'une falaise. Je ne sais pas si vous avez déjà été au bord d'une falaise, surtout quand c'est glissant. Et il y a le vide en bas de vous, et en même temps, vous sentez que le vide vous attire. Il y a comme un vertige, en fait. Et Asaph, c'est ce qu'il est en train de ressentir dans son cœur. Il est là, debout, sur le bord d'une falaise glissante. C'est comme s'il pleuvait, comme s'il n'y avait pas de stabilité. Il n'a plus rien à quoi s'accrocher, et il regarde en bas, et il voit une chute vertigineuse. Alors, quel est ce gouffre en bas d'Asaph ? Dans quoi il va tomber en fait ? Eh bien, il va tomber dans l'incrédulité, dans le fait d'abandonner Dieu. On va le voir dans la suite. Il explique ce qu'il est en train de vivre. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Asaph est en train de regarder tous ceux qui vivent autour de lui et qui ne se soucient pas de Dieu, et il est en train de les envier, parce qu'apparemment ils vivent de bonnes choses. Il en donne la description, le genre de personne qui se moque de Dieu, qui parle de l'Éternel de façon irrespectueuse, et pourtant, ces mêmes personnes, même si elles manquent de respect à Dieu, elles prospèrent, elles s'en sortent bien. Et lui, il regarde ça. Il y a quelque chose qui est en train de naître dans son cœur, là, de la jalousie, une envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Eux, ils prospèrent, ils ne s'occupent pas de Dieu. On lit la suite dans le verset 5. Dans le verset 5, il est dit « Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Donc ils se moquent de Dieu et pourtant, il semble qu'ils n'avaient pas les mêmes problèmes que les autres hommes. Non, bien au contraire, ils étaient dans l'abondance. Verset 73, c'est fort là ce qu'il est en train de décrire. Il y a quelque chose qui est en train de s'amplifier dans son cœur. Et plus il retourne ses pensées-là, plus ce qu'il voit peut être déformé. Il voit que ces gens-là ne souffrent pas et qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Et Asaph, après son observation, en vient à cette conclusion au fond de son cœur. Si vous ignorez Dieu, si vous ignorez ses commandements, vous allez réussir dans cette vie. Comment un Dieu, il se pose cette question qui est primordiale et en fait qu'on s'est peut-être tous posé un jour. Comment un Dieu infiniment puissant peut-il être bon, juste, saint et pourtant laisser le juste sans récompense traverser des épreuves et des difficultés? Qui s'est jamais posé cette question? Et d'un autre côté, il laisse les méchants, ceux qui le détestent, il les laisse prospérer. Il les laisse être dans l'abondance. Il les laisse avoir du succès terrestre. Comment ça se fait? Asaph rumine ses pensées. Et le fait de ruminer ce genre de pensées, vous savez, ça ne vous soulage pas. Au contraire, ça va être de pire en pire. Et il se dit, d'un jour ou l'autre, je vais tomber. Je vais lâcher Dieu. Dans le verset 14, il nous dit que chaque jour, il est harcelé par cette pensée. C'est-à-dire, le matin, il se lève, cette pensée revient. Le soir, il se couche, cette pensée est toujours là. Il sait qu'en étant du côté de Dieu, il est du côté des vainqueurs. Et pourtant, il vit tout le contraire. Et il voit les autres qui sont sans Dieu, qui avancent, qui ont tout ce qu'ils veulent. Et puis, il y a le verset 13, peut-être le plus tragique. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Voilà ce que dit Asaph. Me voici un homme qui a confiance en Dieu. J'ai cherché à garder mes mains propres du péché. J'ai cherché à arrêter de laisser des choses impures entrer dans mon esprit. J'ai tout essayé pour me purifier. J'ai essayé d'être un vase saint pour toi, Seigneur Dieu. Et pourtant, à quoi bon? Quel est l'intérêt d'avoir un cœur pur? Quel est l'intérêt de la pureté? Il n'y a aucun gain à être pur. Il n'y a aucun avantage à essayer d'être un vase pour Dieu. Il n'y a aucune récompense. Quand il regarde les impies, c'est tout le contraire. Il regarde et les voit qu'ils sont en train de réussir, de prospérer, alors qu'ils ne se soucient pas de la pureté. On a presque finalement l'impression qu'il pose cette question. Est-ce que ça vaut même la peine de continuer dans les voies de Dieu? Alors peut-être que ce matin, certaines personnes sont un petit peu dans la situation d'Asaph. Les problèmes n'en finissent pas. J'ai essayé d'être pur, j'ai essayé de marcher avec Dieu, de surveiller ce que je regardais, d'être quelqu'un de bien. J'ai essayé d'être une personne pieuse. Et pourtant, Seigneur, pourquoi y a-t-il encore tous ces problèmes dans ma vie? Alors que mes voisins, croyants, ma famille qui m'a rejeté, tout va bien pour eux. C'est une question, vous savez, qu'on n'ose souvent pas poser. même devant Dieu, et qu'on n'ose pas dire à notre prochain. C'est une question qui a fait chuter beaucoup de personnes, qui a fait lâcher la foi à beaucoup de personnes, qui est venue comme ça travailler, faire son travail en souterrain, amener une rancœur contre Dieu, amener même une haine contre lui, et dire pourquoi, à quoi bon, à quoi ça sert tout ça, pourquoi je vis tout ça. Mais tout ne s'arrête pas là pour Asaph, heureusement. Comment il est sorti de ce terrain glissant? Comment il a évité cette chute et comment il a été délivré de ses tourments? On va voir la suite. Dans les versets 16 et 17. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, c'était trop pénible pour moi. Il y a des questions qu'on se pose, elles sont trop pénibles pour nous. On ne trouvera pas la solution. Vous pourrez les tourner dans votre tête des centaines et des centaines de fois, vous ne trouverez pas la solution. Parce qu'elle n'est pas en nous, la solution. Et Asaph nous donne la suite. Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris leur fin dernière. Ce qui me touche d'abord, c'est un encouragement pour nous tous, c'est qu'Asaph, hein, il était lévite, il était quand même prophète, bah, il vivait les mêmes choses qu'on peut vivre aussi. Et il est allé vers Dieu avec ses doutes, avec cette question quand même qui est une insulte pour Dieu. Il est quand même allé auprès de Dieu dans sa présence. On ne sait pas combien de temps il a mis pour y aller, parce que ça a quand même duré plusieurs jours, ces tourments-là. Mais au bout du compte, il est quand même allé vers Dieu, parce qu'il dit « je ne peux pas m'en sortir ». Et Dieu ne l'a pas rejeté, Dieu ne l'a pas montré du doigt, Dieu lui a donné une révélation puissante. Il est allé dans la maison de Dieu, il est allé dans la présence de Dieu, et il a joué carte sur table avec Dieu. Il a montré son cœur, ce qu'il y avait dans son cœur. Vous savez, Dieu, il attend simplement notre sincérité, d'être sincère avec lui. Ce n'est pas la peine de me porter un masque avec Dieu. On ne peut pas faire semblant avec lui. Vous savez, nous sommes nus face à lui. Il voit tout, il connaît nos pensées, il connaît nos cœurs. Et Asaph le savait. Et il est allé dans sa présence et il a prononcé de sa bouche. Voilà, voilà ce que je pense dans mon cœur. Et Dieu a pu le libérer. Alors, la situation d'Asaph n'a pas changé. Il n'a pas été, voilà, tout d'un coup riche ou libéré de ses problèmes. On ne sait pas quels problèmes il vivait, mais en tout cas, il vivait sûrement des choses très difficiles. La parole ne nous dit pas qu'il a été libéré de ces choses-là. Sa situation n'a pas changé pour l'instant. Par contre, Dieu lui a fait changer de perspective. Il ne voyait plus les choses de la même façon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous savez, des fois, on peut comparer la vérité à un cube. Un cube, ça a plusieurs faces. Et Asaph, dans ce qu'il vivait, il ne voyait qu'une face du cube. Et Dieu lui a permis de voir l'autre face. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Asaph, en fait, ne voyait plus que la vérité, une facette de la vérité terrestre. Moi, ça va mal, ceux sans Dieu, ça va bien. Et c'était peut-être vrai, humainement, effectivement, ils vivaient des choses difficiles. Et puis humainement, on voyait que les autres qui ne se souciaient pas de Dieu, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Donc, ça, c'est une face du dé. Et c'est ce que la plupart des gens voient autour de nous. Ils ne voient qu'une facette des choses. Mais Dieu nous donne de voir au-delà de ça. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Quand Asaph entre dans la présence de Dieu, que se passe-t-il? Soudain, il voit tous les côtés du cube. Il réalise la vérité spirituelle qu'il avait peut-être oubliée, qu'il avait peut-être mis de côté. Celle qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est visible par l'esprit, les vérités spirituelles. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire la justice de Dieu et l'éternité. Vous savez, l'une des plus grandes vérités de la Bible est celle-ci. Votre vie, ma vie, prendra fin un jour. Dès qu'on vient sur cette terre, on sait qu'un jour ça va finir. Ça, c'est une grande vérité. Mais parfois, on l'oublie, cette vérité. On vit comme si ça ne se terminerait jamais. Si, ça va se terminer. Et on ne sait pas quand, en plus. Et qu'on y croit ou pas, toute personne comparaîtra devant Dieu et devra rendre compte de ce qu'elle a fait de la vie que Dieu lui a donnée. C'est une vérité. Dieu est saint. C'est une vérité vitale que beaucoup d'entre nous, nous pouvons oublier quand nous sommes dans les tourments et les tracas. Nous oublions cette vérité. Et Asaph l'avait sans doute oublié. Dieu est venu lui révéler de nouveau qu'est-ce qu'il y a derrière. Vous pouvez prendre le psaume 37, hein, qui est l'inverse du psaume 73, qui nous dit, versets 35-36, « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. » Il y a une fin. Il y a une fin, vous savez, il y a une justice de Dieu qui tombe un jour ou l'autre de toute façon. Ce monde ne veut pas en être conscient, ce monde veut l'ignorer et vivre simplement dans les choses matérielles, dans les choses qu'on vit humainement, terrestrement, charnellement. Et on oublie le combat spirituel qu'il y a derrière. Je vous racontais une petite histoire, vous avez peut-être déjà entendu. C'est après une journée de chasse, c'est un maître, un homme très riche et incrédule, qui observe son chauffeur qui est devant lui. Et ce chauffeur, c'est un chrétien fervent qui traverse une période très compliquée, de grandes épreuves dans les finances, dans la santé. Et le maître lui pose cette question, « Dis-moi, mais tu passes ton temps à prier, tu vas à l'église, tu dis que Dieu est bon, que Dieu est avec toi, mais ta vie, c'est un désastre, en fait. Regarde-moi, je ne prie jamais. » Je me moque de la religion. Et pourtant, tout me réussit. Si ton Dieu est si puissant, pourquoi te laisse-t-il galérer alors que moi, il me laisse tranquille ? Alors le chauffeur, il réfléchit. Et puis, il dit, « Monsieur, vous vous souvenez quand on était à la chasse, là, vous avez tiré dans une volée de canards. » Il y avait des canards morts sur le coup et d'autres qui étaient seulement blessés, qui sont tombés. Le maître, il dit oui. Puis alors, le chauffeur, il continue et il dit « Quand vous avez envoyé votre chien vers lesquels il a couru, ceux qui étaient morts ou ceux qui étaient simplement blessés ?» Il dit « Il a couru vers après les canards blessés, ceux qui essayaient encore de s'échapper. » Il ne s'est pas soucié des canards morts parce que ben il pouvait plus bouger de toute façon. Et le chauffeur lui dit ben c'est un peu la même chose avec le diable, vous savez. Ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui ne cherchent pas Dieu, il les laisse tranquilles. Car il sait qu'il les possède déjà. Mais ceux qui essaient de suivre Dieu, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui sont toujours vivants et qui tentent de lui échapper, ben, il leur court après. Et il y a des combats, forcément. C'est peut-être parce que vous allez déjà dans cette direction que vous avez tout ce que vous voulez sur cette terre. N'ignorons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Ne regardons pas seulement les choses de façon charnelle. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont attirés et voudraient ressembler aux stars des réseaux sociaux, aux chanteurs célèbres. La beauté, la gloire, l'argent facile, les voyages. Vous savez, j'ai un petit neveu, il veut devenir youtubeur. Ah, il voit ses parents qui vont au travail tous les matins à 8h et puis qui ne gagnent pas grand-chose. Et puis les youtubeurs, ils jouent aux vidéos, ils sont filmés, puis ils gagnent des milliers, puis ils ont la gloire. Et puis... Forcément, c'est attirant, ça. C'est attirant. Vous voyez ce qu'on sème dans le cœur. Mais on ne voit pas la facette, l'autre facette de tout ça. Aujourd'hui, les modèles, c'est Squeezie, c'est Taylor Swift, c'est... Et puis dans quelques années, ça sera d'autres modèles. On est attiré par ces choses-là. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, toutes les jeunes filles voulaient ressembler à Loana. Elles voulaient la vie de Loana. Est-ce que vous pensez que si on l'avait expliqué la fin qu'elle allait avoir, Ils auraient toujours voulu avoir cette vie-là ? C'est ce que le diable propose. Il te monte sur le coup, mais il te montre jamais comment ça va se finir, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? On peut facilement être attiré par la surface de ces styles de vie. On regarde aux apparences. Mais on se demande rarement comment ça va se finir. Comment cette personne va finir sa vie finalement. Ah, ça fait rêver tout ce qui... Voilà. Vous savez, il y a des personnes, elles prennent en photo, chaque fois qu'elles vont dans un grand restaurant, prennent en photo le plat, elles mettent sur Instagram. Mais elles ne prennent jamais les photos des nouilles au jambon qu'elles mangent toute la semaine avant. Hein. Enfin, j'ai rien contre les pâtes au jambon, c'est très bon. Mais... Oui, il y a toujours une partie de la vérité qui est masquée. On veut montrer le beau, et le diable montre le beau. Ce qui est bon, ce qui est sucré, ce qui se mange facilement. Mais il ne va pas te montrer ce qu'il y a derrière. Hein. Jack Nicholson, vous connaissez peut-être ? Ouais, c'était un acteur incroyable. Il avait plein de charisme. Il était riche, célèbre. Il a gagné un Oscar. Et il prétend avoir eu 2000 amantes. 2000 femmes. Et à l'époque, bah évidemment, beaucoup d'hommes le regardaient avec envie et disaient « Je donnerais n'importe quoi pour avoir sa vie. J'aimerais avoir tout cet argent, toutes les filles, toute cette célébrité. » Ces choses me rendraient si heureux. Dans une interview en 2014, à l'âge de 77 ans, Jack Nicholson a dit « Je regrette d'avoir papillonné quand j'étais plus jeune, parce que maintenant, aucune femme ne me fera confiance. Et je suis terrifié à l'idée de mourir seul dans la maison. » Toujours regarder derrière ce qui se passe. Ce style de vie que les gens lui enviaient était en fait la vie qu'il regrettait d'avoir menée. Il aurait aimé avoir une autre vie finalement. Selena Gomez, vous connaissez peut-être, une star, une influenceuse sur Instagram, une star de Disney, très suivie sur Instagram. La réalité, c'est qu'elle a fait plusieurs séjours en centre de santé mentale, en centre de psychiatrie, de désintox. Elle a déclaré « Je me sentais comme si j'étais à l'école secondaire, que tout le monde me regardait et c'était épuisant. » Il y a une vérité derrière. On voit les stars, on pense que tout est beau, mais il y a quelque chose de lourd à porter derrière. Et elle a souvent exprimé le regret d'avoir grandi sous les projecteurs, affirmant que cela lui avait volé sa jeunesse et sa paix. Vous savez, le diable se fait beaucoup d'amis pour les enterrer. Se fait beaucoup d'amis. Il peut vous donner ce que vous voulez. Par contre, il y a un prix à payer derrière. La parole nous donne cet avertissement. La voie du pécheur mène à la ruine. Et ça, le monde ne va pas nous le dire. Une vie pour soi-même, sans Dieu, peut paraître attirante en surface. Et simple, mais elle est bien plus difficile qu'une vie d'obéissance à Dieu. Elle est bien plus difficile. Quel réconfort à celui qui ne veut pas de Dieu lorsqu'il arrive à la fin de sa vie. Qu'est-ce qui lui reste ? Je parlais encore un petit exemple récent, là. Vous aviez des influenceurs, quand les frappes, la guerre en Iran a commencé, qui étaient coincés à Dubaï. Alors, c'était les personnes les plus riches, les plus connues, milliers d'abonnés, des milliers d'euros. Et ils étaient en train de faire des vidéos. Et... Quand tu vois la mort qui s'approche, tes milliers d'abonnés et tes milliers d'euros, ça ne te sert plus à rien. Hein. Tu sais que tu peux partir comme ça, là. Et là, il y a quelque chose. Et tu te raccroches à quoi, alors ? À quoi tu vas te raccrocher dans ces moments-là ? Quel réconfort ! Quelle consolation, quel espoir sans Dieu. Où vont-ils trouver la paix, l'assurance? Le seul réconfort qu'ils ont, c'est quoi? Les souvenirs? Une poignée de souvenirs? Ah, j'ai bien vécu, j'ai fait ça, mais tout ce qu'ils peuvent encore se rappeler. C'est ça ton réconfort face à la mort, face à ce passage dans une éternité que tu ne connais même pas, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas d'où tu viens. C'est quoi cette vie? Quand des stars nous font miroiter toutes ces choses, que le diable nous fait miroiter tout cela, réfléchissons bien. Restons conscients des enjeux spirituels de qui nous sommes. Maintenant, comparons avec la vie du croyant. En surface, ce que les gens vont nous dire, ta vie est ennuyeuse. Tu crois vraiment à ce livre d'histoire là? Tu crois vraiment à ça là? C'est pour les gamins ça. Tu vas à l'église chaque dimanche? Tu peux même pas faire la grâce matinée le dimanche matin. Tu vas en mission pendant tes vacances, c'est une façon ennuyeuse de vivre. On vous a déjà sûrement dit ce genre de choses. N'oubliez pas que ces personnes ne voient qu'une facette. Ils n'ont pas conscience du spirituel. Donc cela ne doit pas nous atteindre, parce qu'on sait que notre vie ne se limite pas à ces choses-là, et que ces choses-là sont glorieuses d'ailleurs. Toutes ces paroles ne reposent pas sur la vérité. Ce qui est la vérité, c'est qu'il n'y a pas de plus grand réconfort que de prier quand on n'a nulle part ailleurs où aller et d'avoir l'assurance que Dieu nous écoute. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que nos péchés ont été pardonnés, nos péchés passés, présents et futurs. Pas de plus grande joie de savoir qu'on fait partie de la famille de Dieu. On est un membre à part entière de la famille de Dieu. Pas de plus grande joie de savoir qu'on a tellement été aimé que Christ, le Dieu Tout-Puissant, est venu mourir sur une croix pour nous. Il a versé son sang. Je n'ai plus de culpabilité, plus de honte parce que Jésus a pris ma honte sur la croix. Il n'y a pas de plus grande joie que d'avoir la communion avec d'autres chrétiens, d'autres frères et sœurs, d'avoir la communion avec notre Père Céleste. Pas de plus grande joie que de savoir que ma vie est précieuse et qu'elle a un but éternel, que je ne suis pas là par hasard, mais que j'ai été désiré. Pas de plus grande joie que de savoir que quand je vais quitter ce monde, Jésus m'a préparé une place dans sa présence, que je pourrai le contempler. Pas de plus grande joie que de savoir que ici, c'est temporaire, mais là-bas, c'est l'éternité dans sa gloire. Pas de plus grande joie que de savoir qu'il essuiera toutes mes larmes. Il les compte déjà sur cette terre et il essuiera toutes nos larmes. Quelle gloire, quelle joie d'être enfant de Dieu, de marcher avec Jésus. John Wesley, qui a mené le réveil dans les années 1700 en Angleterre, disait des chrétiens qu'il a vus maintes fois et maintes fois quitter ce monde, nos gens meurent bien. Qu'est-ce que ça veut dire, nos gens meurent bien? Nos gens meurent bien. Mourir, c'est pas bien. Mais là, nos gens meurent bien. Ça veut dire que ces gens mouraient dans une paix incroyable. Dans une paix incroyable. La peur, nous n'avons plus la peur de la mort. Nous savons que la mort n'est simplement qu'un passage vers quelque chose de glorieux. Non! Non, 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 non. Dieu a encore des choses pour nous sur cette terre. Alors, ce matin, je pense que beaucoup se sont dit, mais Denis, c'est une vraie joie d'être chrétien. Je pense qu'il y en a qui se le sont dit quand je prêchais ce matin. Et alléluia, vous avez absolument raison. Continuez de garder cette joie et de transmettre cette joie autour de vous. Chérissez cette joie d'être enfant de Dieu. Méditez sur la croix. Méditez sur ce que Christ a fait pour vous. Regardez les choses difficiles que vous vivez comme des choses temporaires, que Dieu maîtrise d'ailleurs, et que Dieu connaît la solution. Gardez cette joie d'être enfant de Dieu. Et puis ce matin, il y a peut-être aussi d'autres personnes qui se sont reconnues en Asaph et se sentent peut-être sur un terrain glissant, qui se disent « Je combats depuis trop longtemps ». et puis je vois les autres qui réussissent sans Dieu. Et je vais peut-être lâcher. Ne lâchez pas. Suivez le modèle d'Asaph. Allez dans la présence de Dieu. Confiez-lui ce que vous avez dans votre cœur, vos souffrances, vos craintes, vos peurs. Dites-lui. Demandez-lui qu'il vous révèle encore la croix. Demandez-lui qu'il vous le révèle comment il vous a sauvé et votre avenir dans l'éternité. Demandez-lui des révélations profondes pour que vous puissiez vous accrocher à cette parole si glorieuse. Revenez à la croix. Revenez à Dieu. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et puis, je finirai en m'adressant aux jeunes, à ceux qui hésitent encore pour suivre Christ, à ceux qui se disent bah, « je deviendrai chrétien quand je serai plus vieux, une fois que je me serai bien amusé, une fois que j'aurai fait tout ce que je veux, une fois que j'aurai vécu ma vie, alors je deviendrai chrétien. » Peut-être, il n'y a pas que les jeunes qui se disent ça, peut-être qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas fait une démarche ce matin. C'est un choix qui vous appartient, mais c'est un choix très dangereux. D'abord, demain ne nous appartient pas. Qui peut dire « demain je serai encore vivant » Personne. On peut partir d'une minute à l'autre. Et puis, aussi, au fur et à mesure que l'on avance dans la vie, le péché fait son œuvre, vous savez, il endurcit nos cœurs. Notre conscience va s'émousser avec l'âge. Aujourd'hui, tu entends encore la parole de Dieu, tu entends encore l'appel de Dieu. Mais dans quelques années, est-ce que ton œil ne sera, ton oreille spirituelle ne sera pas devenue trop dure pour entendre l'appel de Dieu? C'est toujours le bon moment pour venir à Jésus. Ne remettons pas notre éternité dans le hasard ou dans une chose qu'on ne maîtrise pas. C'est comme si on était face à deux chemins, vous savez. Il y a un chemin bien droit, bien éclairé, une route, c'est fléché, il y a un panneau, tout est bien fait. Et puis de l'autre côté, il y a un autre chemin, il a l'air plus intéressant parce qu'il y a des boutiques de chaque côté. Il a l'air plus intéressant, mais on ne sait pas trop où il va. Et on ne sait pas trop si un jour il va rejoindre la bonne route. Vous prenez quel chemin, vous, dans ces cas-là? Moi, je prends la route qui va tout droit et où je sais où je vais. Faites attention. Il y a un embranchement maintenant, mais peut-être qu'il n'y aura plus le même embranchement plus tard. Saisissez-le maintenant. Prenez le chemin que Jésus-Christ a tracé pour vous. Reste avec celui qui t'aime, même si tu ne comprends pas tout, même si le chemin est compliqué et difficile, il ne t'abandonnera jamais. Et il a un avenir glorieux pour toi. Nous sommes du côté du vainqueur, de celui qui nous aime. Nous ne trouverons rien de bon dans l'autre camp. Rien dans le monde, dans le monde, il n'y aura rien. Le monde n'a rien à nous donner. Nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, je te bénis ce matin. Et je te prie encore ce matin que tu viennes révéler dans les cœurs, dans chacun de nos cœurs, la vérité, Seigneur, la vérité spirituelle. Les plans que tu as pour nous, Seigneur, tu viennes nous dégager de toute attirance du monde. Que nous, on n'en vit pas les gens du monde, mais on prie pour eux. On n'a pas à les envier, on a tout. C'est nous qui sommes riches. C'est nous qui sommes bénis, Seigneur. Donne-nous ce matin de regarder à toi, de lever les yeux et de voir ta gloire. Et que celui qui ce matin est découragé vienne dans ta présence et te confie son cœur. Merci pour les révélations. Les révélations que tu vas déposer dans les cœurs.